Les cours du Collège de France, Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie.
Bonjour à tous, et c'est un plaisir de revoir certaines figures et de vous accueillir pour ces cours 2025 qui vont être dédiés, ce n'est pas une surprise, au stockage électrochimique de l'énergie et plus spécialement au sodium-ion que je vais décrire comme la petite sœur éco-responsable et complémentaire de la batterie au lithium. Alors ces cours, cette année, bien sûr, ils vont traiter des différents composants de la batterie que sont l'électrode positive, la cathode, l'électrolyte, l'anode et des différents également interfaces. Alors le programme du cours que j'ai essayé de faire ensemble cette année, eh bien, il va être suivi de séminaires. Et ces séminaires seront assez spéciaux dans la mesure où aujourd'hui, vous verrez, le premier va traiter finalement de l'apport de l'AI, du machine learning, dans le cas des procédés de fabrication des batteries. Ensuite, on aura des exposés sur les caractéristiques analytiques au niveau des interfaces, à l'échelle du laboratoire, avec des techniques comme les QCM, qui seront faites par Hotlem, celles ou alors par les grands instruments, par Séverine et Lionard. Et ensuite, on aura également des cours sur des technologies émergentes, que sont le zinc MnO2 par Véronique Ballant, et également sur des technologies, avec les divalents, que sont le calcium ou le magnésium, qui se feront faits par Rosa Palassi. Et enfin, pour clôturer tout ça, eh bien, on aura un aspect recyclage qui sera traité par Cyril Monnier, qui est médaille de l'innovation du CNRS en 2024. Et le tout sera clôturé par, simplement dans ce cas, le CTO de Tiamat, qui vous montrera finalement où on est. Alors, si vous voulez, c'est intéressant parce que je m'aperçois que plus le temps passe, et plus il devient difficile de donner des cours au Collège de France. Des cours au Collège de France, c'est une tâche difficile, surtout dans le domaine des batteries. En effet, c'est une tâche difficile pour la simple raison, c'est que le nombre des publications devient croissante. Comme vous pouvez voir, en 2024, on a eu 29 000 publications dans le domaine des batteries, dont 5 000 sur le lithium-ion, 3 200 sur le sodium-ion, sur le tout solide, 4900, et sur le zinc-ion, c'est autour de 2000. Donc voilà, si vous voulez, le nombre de publications qu'il y a, et il m'appartient directement de faire une synthèse de tout ça. Alors bien sûr, je suis tenté de dire, il va falloir que je me mette directement à d'autres technologies qui ne sont pas les miennes. Mais heureusement, je suis un fervent, et je crois que on apprend tout simplement quelque chose si on sait l'enseigner. Je reprendrai directement cette conversation de personne que vous connaissez bien, qui est Richard Freeman. Soit avec ça, j'ai pris la tâche ou la responsabilité cette année de vouloir vous traiter le sodium-ion. Alors le premier cours, il va être, assez général, puisqu'il va directement vous donner l'évolution des technologies, les avancées récentes dans le cas du lithium-ion, et tout ça placé dans le contexte directement des différentes technologies et ce que fait le sodium-ion. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler directement des performances, des matériaux nouveaux qui ressuscitent l'intérêt, que sont les phosphates de fer, mais également, je vous mentionnerai l'action tout solide. Et tout cela va m'amener finalement à parler d'une chose que vous connaissez très bien, c'est la complexité de l'industrie européenne des batteries, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quels sont les états de l'art, ainsi de suite. Et enfin, finalement, je rentrerai dans la technologie sodium-ion avec tout d'abord, en vous expliquant directement l'avantage du sodium métallique et en quoi la technologie sodium-ion peut être avantageuse. D'où par conséquent, je vais commencer tout d'abord par vous montrer les évolutions qui se passent au niveau des batteries lithium-ion, tant au niveau scientifique qu'au niveau économique. Au niveau scientifique, on voit cette année l'intérêt croissant pour les matériaux riches en nickel pour obtenir, comme vous pouvez voir ici, des densités d'énergie qui peuvent aller jusqu'aux alentours de 400 watts à heure par kilogramme. Mais également, on note un intérêt ou un regain d'intérêt pour les technologies LFP ou LFMP. Pour les gens qui ne sont pas habitués, c'est le lithium fer phosphate et le lithium fer manganèse phosphate. Et ces matériaux, je vous le décrirai un peu plus longtemps. Et bien sûr, ensuite, toutes ces activités sont tirées, si je peux dire, par l'aspect le business. Et c'est la raison pour laquelle on est dans un marché qui évolue aux alentours de 18% par an, avec une demande qui s'élève aux alentours de 4200 gigawatts, heure en 2030, avec, si vous voulez, un chiffre d'affaires de 371 millions de dollars. Donc voilà à peu près des chiffres assez faramineux qui vous montrent l'importance de ce domaine et vous allez voir pourquoi tout le monde veut se ruer dans cet exercice. Alors bien sûr, tout cela est lié au développement de la véhicule électrique, à la production des batteries, et effectivement, dans les années 2030 ou 2035, on prévoit qu'il y aura plus de 50% de véhicules électriques. Et si on regarde ici la répartition, finalement, de ces gigawattheures entre les différents pays ou différents continents, on s'aperçoit en rouge que la Chine est le leader. Et vous allez voir, dans mes premiers transparents, dans la première partie de ce cours, je vais souvent revenir sur cette comparaison pour montrer où se situe, le challenge, et ainsi de suite. Alors la question, bien sûr, c'est comment on peut rester, dans son momentum et en ayant des technologies qui seront, plus vertueuses vis-à-vis de l'environnement. Alors en étant plus vertueuses à l'environnement, c'est un peu, le retour d'intérêt sur ces fameux phosphates de fer qui sont indiqués ici. Et ça, c'est tout simplement des annonces qui ont été faites dans les deux dernières années sur l'intégration de ces batteries à base de lithium FePO4 dans différents véhicules comme Tesla et autres, comme vous pouvez voir ici. Alors l'avantage de cette technologie, elle est, située au nombre de quatre. La première, c'est tout simplement la sécurité, dû au fait que le potentiel redox de ce système est à 3,4 volts, qui se trouve dans le domaine de thermodynamique et stabilité de l'électrolyte. Ensuite, il y a le coût associé finalement à l'abondance des matériaux. Il y a également la durée de vie, également associée à des réactions, aux interfaces relativement minimes. Et enfin, et pas des moindres, c'est tout simplement l'aspect environnemental. Car vous voyez qu'en ces batteries, vous avez quand même 43% de matériaux, de cathodes. Et cette cathode, comme vous pouvez voir ici, elle est faite tout simplement d'éléments comme les phosphates ou le fer, qui sont très abondants. D'où, d'un point de vue souveraineté et surtout d'éco-compatibilité, c'est un système qui est relativement intéressant. Cependant, un point faible à ce système, c'est sa densité d'énergie associée à son potentiel moyen de 3,4 volts. Et c'est là que tout récemment, un matériau qu'on connaissait bien dans le passé, qui est en train de refaire place. Et en même temps, ce qui est intéressant, et ça, c'est des annonces récentes dans lesquelles il y a une astuce pour faire des batteries qui durent longtemps en y mettant tout simplement une prélithiation lors de la formation. Et c'est la raison pour laquelle certains prétendent que durant les 5 premières années, on n'obtient pas de dégradation de ces systèmes. Mais pour augmenter la densité d'énergie de ces systèmes, il y a, des composés dérivés qui sont des composés dans lesquels vous allez remplacer le fer par le manganèse. Et le fait de faire cela va vous permettre d'augmenter le potentiel de 3,4 volts à 4 volts. Et cela va entraîner automatiquement un gain en densité d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, il y a des travaux conséquents qui se situent au niveau de cette phase lithium, fer, manganèse, phosphate. Avec cette compagnie, Gotion, qui a directement annoncé les capacités, relativement impressionnantes et des autonomies même de 1000 km pour des véhicules électriques en basant sur cette technologie. Alors cette technologie, elle a définitivement l'avantage au niveau densité, au niveau également sécuritaire, mais bien sûr, on utilise du manganèse plutôt que du fer, et là il y a un compromis au niveau de la résistance. C'est-à-dire qu'on a une résistance ou une impédance interne de l'accumulateur qui est relativement plus grande, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va trouver des approches, mitigées, dans lesquelles on va faire des composites avec les matériaux lamellaires NMC et le lithium fer phosphate. Avec, bien sûr, le prix à payer qui va être quand même une densité plus faible de cette électrode. Et ensuite, la question qui se pose aussi c'est au niveau du recyclage, quel va être l'incentive de recycler un matériau dans lequel vous avez du fer et du manganèse. Bien sûr, il y a, la valeur ajoutée va dépendre du coût du lithium carbonate à cette époque-là. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe, à ce niveau des lithium phosphates. Alors ensuite, ces matériaux, comme vous pouvez voir, ils ont pénétré le domaine du véhicule électrique. Si vous regardez ici ce qui se passait déjà en 2023, vous voyez certaines compagnies qui ont déjà planifié l'utilisation du LFP, dans leur production, avec des Volkswagen, Daimler, bien sûr, en Chine, cela a été implanté depuis un moment, BYD, depuis 2017, a déjà implanté ses systèmes, et ainsi de suite. Et si on regarde la situation qui est prévue pour 2030, là, comme vous pouvez le voir, tout est en train de changer drastiquement, puisqu'il n'y a pas un seul constructeur automobile qui n'a pas directement prévu de rentrer directement la chimie LFP dans ces batteries pour le véhicule électrique. Vous voyez ici, toutes les compagnies, j'aurais pu en mettre d'autres, eh bien, non seulement ont l'intention de le faire, mais ont également, je dirais, à des quantités relativement importantes, puisqu'on est en train de parler de 30%, de 50% d'implantation, eh bien, de cette technologie LFP. Tout ça, c'est un changement drastique qu'on va retrouver quand on va parler plus tard, finalement, des Gigafactory en Europe. Et je pourrais vous mettre plusieurs planches sur cette, je dirais, sur glissement du NMC vers l'FP, et je pense que celle-ci va directement résumer à peu près le tout, dans lequel vous avez ici toutes les sortes de technologies qui existent aujourd'hui, que ce soit les technologies polyanioniques, comme indiqué ici, ou les technologies lamellaires. Et vous voyez, au fur et à mesure des années, vous avez cette bas partie du graphe qui représente les lamellaires NMC, et vous voyez que directement la pente décroissante au profil eh bien, de ces technologies LFP. Et ce qui est intéressant, c'est que regarde maintenant en haut de ce graphe, vous apercevez effectivement la technologie LFP-MP dont je vous ai parlé et la technologie sodium-ion en noir, qui est certes pas importante, mais qui arrive et qui va rentrer dans le marché et on verra comment et pourquoi. Alors vous avez bien compris qu'aujourd'hui, eh bien, on est en train directement de shifter de l'utilisation de ces lamellaires à ces phosphates. Et ça, la question qu'on peut se poser, quelles vont être les conséquences pour nous en tant qu'Européens ? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer cela sur ce transparent qui va avoir plusieurs graphes. Le premier, c'est finalement les demandes dans l'FP par secteur. Et pas une surprise, d'après ce que je vous ai montré, vous voyez que c'est bien le secteur de l'automobile qui va directement demander aux alentours de 80% de LFP. Si on regarde au niveau des coûts, eh bien, on s'aperçoit que les coûts, ici, peuvent varier aux alentours de 8 à 9 dollars du kilogramme en 2020 jusqu'à aujourd'hui en 19 dollars en 2025. Et cela, bien sûr, est lié au prix du carbonate de lithium qui va finalement réglementer l'apport ou, je dirais, l'utilisation de certaines technologies. Par contre, ce qui est le plus important, c'est que si on regarde finalement où est-ce que le LFP ou LFP est produit aujourd'hui, bien on s'aperçoit finalement que c'est la Chine qui domine à 100% totalement la production de ces matériaux. Et pour ceux qui s'intéressent à cela, vous avez directement, certainement lu il y a de cela deux ou trois semaines, que la Chine menace également directement de ne plus exporter de LFP en Europe. D'où la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi nous ? Eh bien malheureusement, l'ironie du sort, je vais dire, c'est que le LFP est un matériau dont les brevets eh bien, appartiennent, je dirais, à la France et aux États-Unis, et notamment avec Michel Armand. Les recherches de premier plan avaient lieu en France il y a de cela une dizaine ou une vingtaine d'années. Elles ont été abandonnées parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et nos industriels ont délaissé le LFP parce qu'ils avaient des capacités moindres que l'NMC. Donc voilà, si vous voulez, la situation. Alors aujourd'hui, bien sûr, il faut directement réindustrialiser l'Europe. Il faut directement régénérer, je dirais, ces compagnies capables de produire ces matériaux. Et c'est la raison pour laquelle on voit déjà certaines initiatives qui se mettent, je dirais, en place. Notamment, et c'est récent, dans les 5 derniers mois, vous avez vu des accords entre Stellantis et CATL pour créer, je dirais, un plan en Espagne. Et d'ailleurs, c'est l'Espagne qui semble directement bouger le plus rapidement là-dessus. Et également, tout récemment, il y a eu aussi un accord, un partenariat entre ICL et Dynanomic pour aussi créer une industrie du LFP. Donc voilà, si vous voulez, un des premiers, je dirais, événements qui sont passés dans ces cette année ou l'année dernière, ces deux dernières années, concernant les matériaux d'électrode. Ensuite, je dirais, en prolongement de mon cours de l'année dernière, eh bien, la technologie tout solide, elle aussi, est en train directement de susciter toujours autant d'engouement. Ici, je vous montre finalement une carte du monde dans laquelle vous pouvez voir toutes les industries, toutes les compagnies, toutes les institutions qui sont imbriquées dans cette technologie tout solide. Et à ce jour, je dirais, il n'y a pas un laboratoire, il n'y a pas une institution au monde, il n'y a pas une industrie qui ne travaille pas sur le tout solide. Alors, dans ce cas, bien sûr, ce tout solide, eh bien, c'est encore en phase de recherche et développement, et avec des essais pilotes, je dirais, dans le monde entier. Mais, finalement, on ne va pas directement, dans un premier temps, eh bien, essayer de développer le tout solide, mais on va tout simplement essayer de voir des technologies solides électrolytes et qui pourront être commercialisés assez rapidement. Et là aussi, eh bien, je vais tout simplement vous présenter une avancée récente encore dans ce domaine, qui a lieu en Chine, sur cette technologie. Alors bien sûr, la technologie tout solide, comme vous pouvez voir ce transparent qui est certainement très chargé, dans lequel, tout simplement, vous avez les différentes sortes de technologies, avec le lithium métal, les technologies lithium-ion qu'on connaît bien, et les technologies, dans ce cas, avec cathode anode laisse en lithium. Et on s'aperçoit les progressions, et automatiquement, on veut aller, lorsqu'on fait du tout solide, vers des systèmes sans goutte d'électrolyte ou sans polymère. Alors dans ce cas, eh bien, on peut regarder quelle va être l'échelle de temps. Eh bien, pour avoir du tout solide, je pense qu'il faudrait que vous attendiez 2035 pour avoir réellement des batteries tout solides réelles. Alors bien sûr, l'intérêt de tout ça, il est double. Je dirais qu'on peut voir ici, eh bien, il y a un avantage au niveau sécurité de fabriquer ces batteries tout solides, mais il y a également un avantage au niveau de densité d'énergie, qui peut être supérieur à 400 Wh par kilogramme, et bien sûr, un avantage également au niveau de la puissance. Alors, qu'est-ce qui s'est fait dans ce domaine tout récemment? Et parmi les différents papiers que j'ai trouvés, ou les inventions que j'ai trouvées assez innovantes, il n'y en a qu'une, dont je vais vous rapporter, qui finalement rappelle un vieux travail qu'on avait fait il y a de cela 10 ou 15 ans, par la technologie Belcor, dans lequel on avait tout inséré dans une matrice plastique. Et là, l'astuce a été relativement intéressante. C'est dans ce cas, vous allez directement concevoir votre batterie avec vos électrodes, dans laquelle vous allez avoir une certaine porosité. Et la difficulté dans ces systèmes, bien sûr, c'est les interfaces, et faire en sorte que le transfert d'ions aux interfaces soit rapide. Et dans ce cas, bien les chercheurs chinois, ce qu'on fait, on préparait des solutions, des précurseurs, des polymères, avec les sels bien nécessaires, et ils vont simplement infiltrer ou remplir cette porosité. Et l'astuce, c'est qu'ensuite, par soit un rayonnement thermique ou un rayonnement ou par spectroscopie, par rayonnement UV, eh bien, ils vont tout simplement polymériser cela. Ce qui fait que, comme vous pouvez voir ici, eh bien, finalement, on a un ensemble, une batterie, dans laquelle tous les composants vont être directement insérés dans une matrice plastique avec des interfaces qui seront, dans ce cas, relativement continues et homogènes. Et ça, ça va tout simplement vous donner, je dirais, un transport d'ions et une résistance ou une impédance relativement plus faible. Alors ça, si vous voulez, je dirais, c'est presque un procédé qu'on avait dans une technologie Belcor, où il y avait une technologie qui avait été dérivée, qui était à peu près identique. Mais l'apport de cette nouvelle technologie, c'est qu'ils vont combiner plusieurs innovations dans le même système. Et parmi ces innovations, elles sont au nombre de 5, je dirais. La première, comme vous pouvez voir ici, va se situer au niveau de l'anode, où maintenant, on va utiliser une prélithiation pour les étapes de formation, et ainsi de suite. Ensuite, si on regarde directement, on va utiliser un contenu de conducteur ionique, où là, on va utiliser directement des grenades, des composés inorganiques solides pour, à l'interface, on va utiliser le séparateur, qui va être un mélange de polymères, bien sûr chargé en sel, et également d'une matière inorganique. Et la cathode, là aussi très intéressante, va être, une fois de plus, la mélange de ce polymère, de cet électrolyte inorganique, plus du matériau actif. Et bien, grâce à cela, eh bien, on peut obtenir des systèmes, je dirais, qui sont relativement intéressants, car cette fabrication in situ, comme vous l'avez mentionné, elle permet de s'affranchir des interfaces et de diminuer les réactions parasites. Il y a dans ce cas également la possibilité, dans un tel procédé, d'utiliser finalement les machines qu'on utilise aujourd'hui pour produire des batteries semi-solides, et ainsi de suite. Et tout cela, eh bien, ça peut s'adapter, je dirais, à tous les matériaux d'anode, de cathode, et de différents formats de configuration et d'électrolytes à condition que ces derniers soient directement des solides. D'où, c'est cette technologie qui est en train de se développer et se développer pour différentes applications. Applications indiquées ici pour le véhicule électrique. Vous avez également des applications pour tout ce qui est les drones et les applications pour tout ce qui est le stockage électrochimique de l'énergie, pour tout ce qui est le stockage de masse et des stockages de secours. Alors les performances que vous allez voir, elles sont indiquées ici. Bien, effectivement, je dirais la performance en tenue en cyclage est loin d'être miraculeuse. Hein. Par contre, vous voyez qu'en ce cas, on peut obtenir des densités d'énergie volumétrique aux alentours de 850 Wh par litre. Et ensuite, je vous montre directement comment on est dans une matrice bien polymère. C'est le point de matrice polymère. Vous avez tout simplement un gonflement Et ce gonflement, il doit être limité en fonction du cyclage. Et dans ce cas, eh bien, il est limité à ce jour aux alentours de 10 à 12%. Donc voilà, si vous voulez, les deux grandes avancées majeures que j'ai notées cette année ou ces deux dernières années dans le domaine des batteries à ion-lithium. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, eh bien, c'est tout simplement vous décrire, suite à ces avancées, ce qui se passe au niveau européen dans le domaine des batteries et pourquoi, finalement, on est en difficulté. Eh bien, ça va être la deuxième partie de mon exposé et d'essayer de vous expliquer les raisons et peut-être comment y tenter d'y remédier. Alors, effectivement, vous savez tous que l'Europe, vous lisez les journaux, eh bien, du moins il y a de cela 3 ou 4 ans, eh bien, construisez des gigafactories ou les gigafactories poussées comme des champignons en Europe. Et c'est effectivement, vous avez plus ou moins de 25 à 30 projets de gigafactories en Europe. Et notamment en France, vous avez 6 projets qui sont indiqués ici, avec notamment ACC, Vercor, Blue Solution, Envision, Prologium, Tiamat, ainsi de suite. Et grâce à cela, eh bien, l'Europe prétend, voudrait, souhaiterait, eh bien, finalement, conquérir ce marché ou jouer un rôle important dans ce marché lucratif du stockage d'énergie qui doit atteindre les 3000 ou 4000 gigawattheures et au moins essayer de conquérir 19% ou 20% du marché. Quitte aujourd'hui, eh bien, on n'en conquérit que 1%. Alors tout cela, c'est intéressant, mais il faut voir que pour faire cela, eh bien, il faut des matériaux et il faut des machines d'assemblage. Et à ce jour, eh bien, on importe 95% ou 96% des matériaux et tout autant des machines d'assemblage. C'est la raison que lorsqu'on parle de souveraineté européenne, eh bien, vous apercevez que même si on construit des gigafactories, on n'aura pas cette souveraineté européenne. Alors ces gigafactories sont construites et certaines sont en production. Et on doit dire qu'ACC, par exemple, a déjà équipé, si je peux dire, des voitures grâce aux batteries qui ont été fonctionnées. Cependant, eh bien, on est loin des espérances qu'il y avait au départ. Car si vous lisez les journaux, il y a de cela 3 ou 4 ans, il y avait de très beaux projets, avec la multiplication des gigafactories dans différents pays, ainsi de suite. Et vous avez ici, quelle autorité les annonce, vous voyez ici où est-ce qu'on en est. Vous apercevez que dans ce cas, il y avait 3 sites qui devaient être construits. Un a été construit, il n'a pas atteint sa production, et pour le moment, les deux autres sont mis en stand-by. La même chose, Norvolt, on y reviendra, ou Power. Et vous avez tous entendu, récemment, en novembre, les difficultés que la compagnie Norvolt, qui était le fleuron, si je peux dire, européen des gigafactories rencontrées, et là aussi, eh bien, il y a eu, je dirais, de sérieuses difficultés financières qui a ébranlé, je dirais, les fournisseurs, mais également qui a questionné beaucoup l'Europe sur la façon de faire sa politique au niveau des batteries, et ainsi de suite. Bon, je dirais, si je peux, un peu d'optimisme, c'est que les actionnaires de Norvolt ont décidé de poursuivre l'action, car c'était dommage de balancer plus de 6 milliards à l'eau, d'où ça va être directement poursuivi, dans quelles conditions, on verra. Mais pour, si je peux dire, résumer, accentuer cela, eh bien, c'est vraiment la difficulté aujourd'hui que les gigafactories ont. Et ça, j'ai repris un transparent, un graphe qui avait été utilisé par Vincent Yang lors d'un forum qu'on a vu au Collège de France, qui montre effectivement la plupart certains des projets sont annulés, sont gelés. Vous voyez ici la projection des gigafactories qui va être construite. Vous voyez déjà, certaines n'ont pas été construites, d'autres ne le seront pas. Ensuite, eh bien, si on regarde la demande, finalement, en bleu, eh bien, vous voyez que la demande, qu'on pouvait voir aussi, n'est pas comme escomptée au départ. Ça, c'est la capacité de production, mais aujourd'hui, on est encore loin de cette capacité de production. D'où la question que vous pouvez vous poser, c'est finalement, pourquoi, quelles sont toutes ces difficultés? Eh bien, en première lecture, en première analyse du système, eh bien, on s'aperçoit d'abord eh bien, qu'il y a eu directement une baisse des ventes du véhicule électrique au profit du véhicule hybride, pour la bonne et simple raison que certains pays, dont notamment l'Allemagne, ont supprimé toutes les subventions. Il y a également une hésitation entre le passage de LFP au LFP qui va modifier l'écosystème, je dirais, européen basé sur NMC. Il y a, très important, la complexité non anticipée de développer des chaînes de production et de produire des batteries de qualité. Et on verra d'ailleurs par la suite comment peut-être l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à être plus rapide là-dessus. Et enfin, il y a une compétitivité asiatique, je dirais, sans merci. Et c'est la raison pour laquelle je prendrai cette citation qui a été prononcée par Vincent Yann, « L'Europe des batteries s'apprête à traverser la vallée de la mort ». D'où, on va être un peu plus euphorique, et on va voir un peu pourquoi, directement, on est dans cette situation. Eh bien, la situation, si je peux dire, elle est relativement simple. Elle va être tout simplement reposée sur trois facteurs si on veut être compétitif. Le premier, parce que vous faites directement des batteries, il va falloir de l'énergie. Et si on regarde par rapport à la Chine, on s'aperçoit directement qu'en Europe, on paie l'énergie trois fois plus cher, où le coût est trois fois plus important qu'en Chine. Si on regarde au niveau des matériaux, eh bien, là aussi, on veut faire des batteries, mais on n'a pas des matériaux, on est obligé de les importer, comme on importe les machines d'assemblage. Et là aussi, il faudra directement, certainement, regarder ou explorer ou développer l'extraction et le raffinage. Et enfin, là aussi, tout simplement, il nous manque des experts, il nous manque des talents à l'Europe pour directement ces nouveaux métiers que génère directement l'implantation et le développement de ces gigafactories. D'où, je dirais, il faut accélérer aussi tout ce qui est la formation et ça. D'où la question qu'on peut regarder, qu'on peut se poser, c'est finalement comment remédier à ça et quelles sont finalement les leçons à tirer de la Chine à ce niveau. Mais je pense que la leçon sera relativement simple, c'est le besoin de créer une industrie européenne des batteries qui va s'appuyer sur une chaîne de valeur efficace et souveraine, c'est-à-dire avec des matériaux, des machines d'assemblage, des équipements et tout au niveau européen et ainsi de suite. Alors cette chaîne de valeur, eh bien, automatiquement, elle est complexe. Et là aussi, cette chaîne de valeur, eh bien, elle ne se décrète pas. Il faut la construire. Elle va se construire au niveau, au nombre des années. C'est-à-dire qu'il va falloir tout simplement voir au niveau de l'extraction des matériaux, comment on peut relancer ces systèmes d'extraction, et tout cela dans un temps record. Il va falloir également regarder au niveau des matériaux, du raffinage de ces matériaux, et des points sur lesquels on a totalement ignoré, c'est tout ce que sont les équipements d'assemblage, dans lesquels aujourd'hui tout est directement importé de la Chine ou de la Corée. Et enfin, quand je parle des électrodes, il y a bien sûr les matériaux d'électrodes, il y a tous les composants que sont les séparateurs, ainsi de suite. Tout ça, eh bien, sont des industries qu'il va falloir directement mener, créer, et pour avoir cette chaîne de valeur. Alors, cette chaîne de valeur, une fois de plus, eh bien, elle est compliquée, je dirais, à établir, mais je peux vous assurer que c'est vraiment la force qui est nécessaire pour faire cela. Et en effet, une fois de plus, je m'excuse, je vais encore reprendre l'exemple de la Chine pour vous montrer directement la position qu'ont les Chinois sur toutes les ressources nécessaires à construire ou assembler ces batteries. Et vous voyez ici, avec, comme j'ai marqué, trois, je dirais, sections, je dirais l'extraction, le processing, que j'appellerais le raffinage, et la production. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau extraction, mis à part, je dirais, certaines réserves, la Chine n'a pas beaucoup de réserves dans ces domaines. Par contre, vous voyez ici, par exemple, dans le cas du lithium, eh bien la Chine directement va acheter le lithium et va le raffiner et directement va devenir premier producteur de lithium raffiné avec des usines qui sont finalement en Chine, pas loin des gigafactories, ainsi de suite. Et vous voyez que grâce à cela, eh bien, ils assurent directement leur indépendance dans la plupart des matériaux comme indiqué ici. Et bien sûr, le graphite, là aussi, joue un rôle clé puisque la Chine, là, est le premier producteur et également le premier, si je peux dire, raffineur qui procédait le truc. Donc, par conséquent, eh bien, il va être très important d'avoir une approche intégrée, extraction, raffinage et production, si on veut, je dirais, exister au niveau européen et recréer une industrie européenne au niveau des batteries. Alors la question que j'ai mentionnée, en citant Vincent Yann, je vous ai parlé de la vallée de la mort, et maintenant la question, est-ce que la vallée de l'espoir sera atteinte par l'innovation? Et là aussi, je vais vous dire, le challenge est énorme. Le challenge est énorme parce que même nous, en tant que scientifiques, il va falloir qu'on se bouge. Qu'on se bouge pour la simple raison que si on regarde directement la situation en 2003, on s'aperçoit qu'au niveau des papiers, bien la je dirais, le classement était USA première, Japon deuxième et Chine troisième, avec 15% des publications. Si je regarde 10 ans après, eh bien, le nombre de publications est passé à 62%. Et vous voyez que le classement s'est totalement inversé. La Chine devient numéro 1, les États-Unis et la Corée. Alors vous allez me dire, ce n'est que des papiers. Si on regarde maintenant au niveau des brevets, bien voilà la situation au niveau des brevets, et on s'aperçoit également qu'au niveau des brevets, bien vous avez percevé directement que la Chine, là aussi, a pris les devants, ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, il faut, j'espère vous convaincre, mais il faut innover davantage et surtout plus vite. D'où c'est un peu, si vous voulez, comme ça que je vais essayer un peu d'introduire la technologie sodium-ion dans la suite. Alors, en effet, innover plus vite, eh bien, ça veut dire que dans ce contexte-là, il faut chercher de nouvelles technologies. Et voyons ce qui se passe. Et là, je fais un peu résumé de ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans le cas des nouveaux systèmes où, directement, l'éco-compatibilité devient très importante. Et on a vu tout simplement que LFP, dû l'abondance, il vient d'être en train directement de détrôner le NMC. On a vu que les matériaux au manganèse, et là aussi, on aperçoit qu'on a la technologie sodium-ion. Et ces technologies qu'on est en train de développer aujourd'hui, que ce soit LFMP, sodium-ion ou à haute concentration manganèse, eh bien, leur survie va dépendre tout simplement de notre aspect compétitif par rapport à cette technologie de base qui est le lithium-ion phosphate. D'où par conséquent, il ne faut pas perdre espoir, et je pense directement, le sodium-ion est peut-être un espoir pour nous, car l'Europe est une des pionnières, ou du moins l'un des pionniers dans cette technologie qui est en train de se développer et qui est commercialisée, comme je vous mentionnerai dans ce cours. D'où par conséquent, eh bien, cela m'a permis, j'espère, de donner finalement un aperçu de la situation des batteries en Europe, lithium-ion, et maintenant je vais rentrer plus dans le vif du sujet sur cette technologie sodium-ion. D'où par conséquent, on va voir finalement cette technologie sodium-ion que je vais introduire tout d'abord en vous rappelant quels sont finalement les matériaux spécifiques, l'avantage du sodium, l'avantage du sodium-ion par rapport au lithium-ion, et là aussi le positionnement par rapport aux autres technologies. Alors tout d'abord, le sodium-ion, pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, c'est que si on regarde aujourd'hui quelles sont les réserves en lithium, eh bien on s'aperçoit, comme indiqué ici, si on se projette jusqu'en 2030, vous avez ici les histogrammes qui vous montrent les tonnes de lithium nécessaires, qui seront nécessaires selon les courbes de croissance que je vais montrer en 2030. Et vous apercevez ici en rouge, eh bien tout ça, c'est tout simplement le pourcentage de lithium qui est produit pour les batteries en fonction de la production totale. Mais vous apercevez qu'en 2030, tout le lithium qui est produit devra être utilisé pour les batteries. D'où, ça présente quand même une difficulté. Ensuite, eh bien, je vous ai parlé également du stockage électrochimique d'énergie et des applications véhicules électriques. Vous avez une application qui est aussi importante, c'est les renouvelables et tout ce qui est l'énergie renouvelable. Et là aussi, eh bien, vous avez ce graphe qui est relativement intéressant. Voilà tout simplement ce que j'aurai directement avec le lithium et voilà tout ce dont j'ai besoin. Donc, par conséquent, vous apercevez que finalement, il y a une limitation, je dirais, très très importante, car le lithium sera, car je dirais, c'est une technologie de pointe qui a des densités d'énergie relativement intéressantes, sera pour sûr, je dirais, le moyen de stockage d'énergie pour le véhicule électrique et pour les applications de la mobilité, mais pour tout ce qui est stockage de masse et tout ce qui est réseau, ainsi de suite, définitivement, on aura recours à des technologies beaucoup plus abondantes, beaucoup plus vertueuses dans l'environnement, que sont certainement le sodium-ion, le zinc MnO2 ou autre. D'où la question, c'est pouvons-nous opter pour le sodium et quels sont les avantages ? Alors les avantages du sodium, ils sont relativement, je dirais, importants. Ils sont importants, ils se situent directement au niveau de la répartition, comme vous pouvez le voir ici, dans lequel, dans ce cas, eh bien, au contraire, je dirais, du lithium qui est très localisé, mais le sodium, vous le trouvez partout dans le monde. Ensuite, il y a l'abondance. Il est beaucoup plus abondant que le lithium, et là je vous mets un facteur 1000, mais certainement plus important. Et enfin, le coût. Et ça, c'est un coût, c'est important. C'est finalement le coût du lithium carbonate par rapport au sodium carbonate, et c'est ce coût qui va faire fluctuer finalement la prépondérance de ces technologies. D'où par conséquent, on va tout simplement voir quelle est la facilité de cette technologie sodium-ion, qui est finalement un clone du lithium-ion. Alors, puisque je vous parle du sodium, je vais vous faire quand même un peu d'historique, il faut que vous sachiez c'est quoi le sodium, d'où il vient. Bien, le sodium, eh bien, il a été tout simplement isolé pour la première fois par Sir Humphry Davy par électrocatalyse. Et en même temps, eh bien, il a été synthétisé par Gay-Lussac et Thénard, dont le nom est sur une plaque à l'entrée du collège, par une réduction de température par du carbone et de la fonte. Ensuite, eh bien, cet élément a été baptisé, si je peux dire, par Jacob Berzelius, qui en 1814 a donné le nom sodium à cet élément, et en même temps, il a été caractérisé pour ses propriétés physiques. Une des propriétés physiques qui est bien connue du sodium, c'est tout simplement son spectre d'émission, avec le doublé D du sodium, c'est-à-dire deux bandes qui sont à 569 et 539,8, qui sont responsables de la couleur blanche-orangée du sodium, et qui expliquent pourquoi eh bien, ce métal ou sa vapeur est utilisé tout simplement dans des lampes que vous trouvez le long des autoroutes, et ainsi de suite. Ensuite, eh bien, il faut y passer à la synthèse à la grande échelle, et là aussi, on va retrouver la compétition entre les deux procédés. Procédé chimique, ça a été le travail de Sinclair Deville, qui a une fois de plus a utilisé la réaction de carboréduction aux températures avec du carbone ou de la fonte, ou du fer. Et ensuite, les procédés d'électrolyse. Tout d'abord, le procédé Kastner-Kellner, qui dans ce cas est une électrolyse dans un milieu qui n'est pas tellement sympathique, avec de sodium-mercure. C'est la raison pour laquelle ce procédé a été ensuite directement remplacé par le procédé Downs, travail qui a eu lieu à Dupont de Nemours aux États-Unis, dans lequel aujourd'hui, eh bien, on arrive à faire l'électrolyse ou la préparation du sodium à partir d'une électrolyse de sodium chloride et avec un ajout de dichlorure de calcium. L'ajout de ce dichlorure de calcium a simplement pour but d'abaisser le point de fusion directement du fondu et automatiquement de rendre la synthèse beaucoup moins énergétique. Et grâce à cela, eh bien, on obtient cet élément sodium que beaucoup d'entre vous ont utilisé, qui arrive en bloc. Et ce bloc, eh bien sûr, on est obligé directement de le réserver ou le stocker ces amortières de gaz inerte ou alors dans l'huile, comme on le trouve souvent, pour éviter la formation de Na2O ou alors de peroxyde de sodium Na2O2. Donc voilà, si vous voulez, cette recherche sur le sodium. Alors ensuite, sur le sodium ion, bon, là, la recherche, je dirais, est tout aussi glorieuse, mais ce n'est pas bien scientifique, c'est Jules Verne, qui avait déjà prévu directement, il y a de cela 200 ans, dans son roman directement « Mille lieues sous les mers », où le sodium serait un élément très important. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi, eh bien, aujourd'hui, on est sur le sodium, et finalement, ça n'a pas été une grande découverte, c'est plutôt on a utilisé directement ce que les visionnaires avaient déjà prévu 200 ans avec nous. Donc maintenant, pour aller plus en détail, quelle va être la spécificité du sodium par rapport à d'autres éléments, eh bien, tout d'abord, il y a certaines caractéristiques qu'il va falloir que vous rappeliez pour comprendre ce cours par la suite. C'est tout d'abord que le lithium est bien plus petit que le sodium, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, il y a une énergie d'ionisation qui est plus petite pour le sodium. Et ça, ça va être très important. Point de fusion, très important aussi au niveau des dendrites, de la dureté des dendrites. Et bien sûr, lorsque je vais voir directement un aspect pratique, c'est tout simplement la masse du lithium et du sodium, dans laquelle vous avez un facteur 3. Donc voilà, si vous voulez, les caractéristiques qui indiquent tout simplement la différence entre ces deux éléments. Et différence qu'il y aura également au point de vue chimique, puisque dans ce cas, dans le cas du lithium plus, vous allez avoir, ou du sodium plus, vous allez avoir une différente acidité qui va être différente. Ensuite, eh bien, si je regarde à cette, finalement, énergie d'ionisation, vous apercevez que cette énergie d'ionisation, eh bien, elle va décroître au fur et à mesure que je vais tout simplement descendre au tableau périodique, c'est-à-dire que les ions alcalins deviennent plus électropositifs au mesure que je descends. Et ça veut dire que le métal, avec la plus haute énergie d'ionisation, devra être le moins réducteur des alcalins. OK ? Si vous ayant dit cela, si je vous présente ce graphe, vous allez avoir un problème. Parce qu'effectivement, vous apercevez que le lithium, bien, il ne suit pas tout simplement la courbe. Mais il ne suit pas tout simplement la courbe pour la simple raison, c'est que lorsqu'on regarde directement ce potentiel réduction, ou ce delta G, va dépendre bien sûr de delta G d'ionisation plus de delta G de solvation. Et dans le cas du lithium, cette énergie de solvation, elle est négative. C'est la raison pour laquelle, eh bien, de façon anormale, plus ou moins, eh bien, le lithium a un potentiel de moins de 3,05 volts comparé à moins de 71 volts. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, le sodium va être le plus lourd et moins réducteur, et il aura tout simplement une plus faible capacité d'énergie que les systèmes au sodium, au lithium. Ensuite, d'autres paramètres qui sont importants, bien ce que j'appellerais le rayon de Stokes, c'est-à-dire rien d'autre que le rayon hydrodynamique. C'est-à-dire, lorsque vous allez mettre ces ions en solution, soit aqueuse, non aqueuse, ils vont tout simplement s'entourer d'un cortège de molécules. Et ça va donner tout simplement un certain rayon. Et ce rayon, il va gouverner finalement la vitesse à laquelle ces ions vont pouvoir se déplacer directement dans le liquide. D'où, bien sûr, les ions avec une solvation relativement importante vont se déplacer lentement, d'où ça va affecter la viscosité des liquides, d'où par conséquent leur conductivité ionique. Et effectivement, si vous regardez dans ce cas la variation de la viscosité pour des sels de lithium, sodium et potassium dans le même électrolyte, dans ce cas non aqueux qui est le PC, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, effectivement, la plus grande viscosité est pour le lithium, sodium et potassium. D'où par conséquent, si vous changez la viscosité pour passer à la conductivité ionique, eh bien, c'est normal que le potassium ait la plus grande conductivité ionique, et ainsi de suite. D'où cette conductivité ionique, eh bien, va avoir, je dirais, un impact relativement important sur les propriétés aux interfaces, car dans ce cas, ça veut dire que l'activation énergétique, va être plus faible, d'où il va y avoir une diffusion du sodium qui va être beaucoup plus rapide que le lithium. Donc, ça veut dire qu'en ce cas, on aura des interfaces beaucoup plus rapides. On pourra, et on verra par la suite, avoir des batteries de sodium qui auront une plus grande puissance et des réactions parasites différentes. D'où c'est un peu tout cela qui expliquera finalement le comportement des technologies sodium-ion par rapport aux technologies lithium-ion. Et enfin, à titre de comparaison, eh bien, on peut regarder finalement maintenant les différents rayons associés à ces différents alcalins, que sont les rayons métalliques, covalents, ioniques, ainsi de suite, hydratés. On peut voir d'abord eh bien, que tous ces éléments que l'on regarde ici, qu'on peut voir, ils ont leur structure électronique, ils n'ont pas d'électrons automatiquement, et par conséquent, tous ces matériaux eh bien, seront des isolants, seront tout simplement transparents. Ensuite, si maintenant je regarde, eh bien, dû à ce rayon hydrodynamique, eh bien, vous apercevez qu'en ce cas, les entités sodium H2OX auront un rayon hydrodynamique moindre que celui du lithium, d'où par conséquent, ils pourront bouger plus rapidement, et c'est la raison pour laquelle la migration va croître au fur et à mesure directement que je vais modifier ce rayon hydrodynamique de solvation. Et enfin, quelques propriétés associées à ces différents aspects, que sont le fort pouvoir de polarisation ainsi que la forte capacité des alcalins à interagir avec l'eau, expliquent pourquoi certaines de leurs sels sont tout simplement très réactifs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous mettez directement du lithium et du sodium dans l'eau, eh bien, automatiquement, ils vont s'enflammer. Par contre, si vous mettez du sodium dans l'eau, vous allez avoir une réaction beaucoup plus importante que si vous mettez du lithium. Pour la bonne et simple raison, ça vient tout simplement que le potentiel d'ionisation est plus faible dans le cas du sodium, d'où il peut lâcher plus facilement son électron, d'où il peut réduire plus facilement l'eau. Et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir directement une explosion et, si vous voulez vous défaire du sodium, il vaut mieux utiliser de l'alcool que de l'eau. Ensuite, eh bien, tous ces sels sont déliquescents, ça veut dire que si vous les laissez à l'humidité, généralement, ils vont absorber de l'eau. Et enfin, ils cristallisent sous forme d'hydrate, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, ou les bases que je voulais vous dire pour savoir comment cette chimie va se comporter en connaissant les différences au niveau des alcalins, ainsi de suite. Alors maintenant, eh bien, on est presque armé pour commencer à rentrer dans le système au sodium. Et là aussi, je vous montrais que les batteries au sodium, eh bien, elles ne datent pas du sodium ion, mais elles existaient bien avant, au moins 30 ou 40 ans avant. En effet, la première batterie sodium ion est une batterie qui a été, développée à la compagnie Ford dans les années 1960, et qui est tout simplement, dans ce cas, la technologie sodium-soufre, qui est un système qui opère à haute température. Alors, cette technologie, eh bien, elle opère en potentiel 2,1 volts, sur les réactions indiquées ici, qui consistent simplement à une réduction du soufre par le sodium pour donner ce polysulfure. Et vous avez ici le schéma classique d'un accumulateur, mais cette technologie a été développée. La réaction chimique, je dirais, elle est relativement classique. C'est une réduction du soufre par le sodium pour donner un polysulfure. Par contre, la mise directement en forme ou la réalisation de cette batterie nécessitait d'avoir un conducteur ionique au sodium. Et c'est là, je dirais, la beauté de la découverte de cette électrolyte, qui est l'électrolyte sodium-bêta-alumine, dont la structure ou la formule Na L11 ou 17 est indiqué ici. C'est une structure qui consiste simplement avec, je dirais, des clusters de L2-E3 qui sont directement entassés dans ce plan, séparés entre eux par un plan de conduction, à l'intérieur duquel vous trouvez directement les atomes de sodium avec de nombreuses lacunes qui sont, et les plans sont directement connectés par les oxygènes. Ce qui fait qu'ils forment un nid d'abeilles au sein duquel le sodium va diffuser rapidement. Et c'est grâce à cela que ce matériau a une conductivité ionique à 300 degrés de 10-3 siemens par centimètre, qui est l'équivalent de la conductivité ionique de l'acide sulfurique. D'où ce matériau a été très utilisé, et là aussi, et l'astuce et la difficulté, c'est tout simplement de créer finalement des séparateurs comme dont la forme est indiquée ici, à l'intérieur duquel vous allez directement construire votre accumulateur sodium-soufre. Avec à l'intérieur le sodium, à l'extérieur le soufre, et ainsi de suite. Et lorsque vous allez décharger, bien tout simplement le sodium va être oxydé à l'électron négative, il va directement passer à l'électrode positive au travers de l'électrolyte pour réagir avec le soufre et former les polysulfures. D'où voilà, si vous voulez, cette technologie. Alors cette technologie, eh bien, elle va vous donner un potentiel, je dirais, moyen. J'ai mis 2,5 volts, c'est un potentiel qui est plus bas, qui est plutôt aux alentours de 2,30 ou un truc comme ça, avec les performances indiquées ici, aux alentours de 110 watts par kilo, 400 watts par litre, ainsi de suite. Et cette technologie, eh bien, a été développée, mais développée seulement par une seule compagnie, d'ailleurs. C'est une seule compagnie, qui est NGK au Japon, qui a développé cette technologie. C'est une technologie, donc, qui a vocation à servir dans tout ce qui est le stockage de masse, pour tout ce qui est énergie renouvelable, c'est-à-dire éolienne et également panneaux photovoltaïques, à lisser les énergies ou également à servir de secours en cas de panne. Et d'ailleurs, EDF a un plan de 1 MW à La Réunion pour baser cette technologie. Alors cette technologie est très intéressante, mais elle a quand même des risques. Elle a des risques au niveau sécurité, car il y a 4 ou 5 ans de ça, il y a eu un problème sur une des stations, ce qui fait que la production ou le fonctionnement de ces batteries a été simplement fermé pendant un an. Et tout simplement, car il y a une seule compagnie qui s'est fait ça. D'où ça vient? C'est tout simplement le tube d'aluminium que je vous ai montré, eh bien, qui travaille à 300 degrés, il peut y avoir des fractures, et s'il y a des fractures, bien sûr, ça va directement conduire à des défaillances. Ensuite, on travaille à 300 degrés avec des liquides fondus. Il y a des problèmes associés à l'étanchéité finalement hermétique de ces systèmes. Il y a également des problèmes pour combattre les effets de corrosion, car le soufre, eh bien, à 300 degrés, n'est pas des plus sympathiques, notamment sa vapeur. Et enfin, ces systèmes aussi, il faut bien penser qu'ils travaillent toujours à 300 degrés. Ça veut dire que vous allez directement dépenser déjà 15% de l'énergie que vous allez récolter pour alimenter le chauffage, ainsi de suite. Donc voilà directement cette technologie. Alors ensuite, ce n'est pas la seule, il y a une technologie qui a suivi, qui est la technologie qui est indiquée ici, la technologie Zebra, qui est une technologie dont le nom provient que finalement elle a été découverte en Afrique du Sud, mais surtout Zebra, tout simplement, signifie Zero Emission Battery Research Activities. Et cette technologie est basée sur une réaction de conversion dans laquelle vous allez réduire le chlorure, le dichlorure nickel par le sodium, comme indiqué ici, dans un électrolyte qui va être très commun d'aluminium soviétique. Donc voilà la réaction. Dans ce cas, vous avez un potentiel de 2,6 volts. Et une fois de plus, on va utiliser, je dirais, un assemblage, une configuration identique à celle que je vous ai montrée dans le cas de la technologie sodium-soufre, où on va toujours avoir ce tube d'alumine, qui va séparer, je dirais, la positive et la négative. Et avec la réaction indiquée ici, c'est-à-dire lors de la décharge, une fois de plus, je vais oxyder mon électrode directement négative, qui est le sodium. Le sodium va, une fois de plus, passer au travers de l'électrolyte, pour réagir, dans ce cas, avec directement la positive. Et on va avoir une réaction de conversion, dans laquelle le nickel plus 2 va être transformé en nickel 0, c'est-à-dire vous allez avoir, dans ce cas, deux électrons par métal 3D, et c'est une réaction que l'on connaît bien dans le cas du lithium. Et pour cela, on peut également utiliser, je dirais, une composite comme électrode positive qui va être formée de NiCl2 et NaCl4. Et on peut, même dans ces systèmes, vous voyez qu'on parle souvent, dans le cas des systèmes au lithium-ion, des anodes less, eh bien, dans ce cas, on peut directement créer une technologie, je dirais, zebra, dans laquelle on n'a pas de, directement de sodium à électronégatif, on ne la formule pas. Tout ça présente des avantages au niveau sécurité. Et cette technologie, eh bien, sa courbe, je dirais, ou ses performances de décharge sont indiquées ici. Vous voyez effectivement le potentiel à 2,5 volts, avec un second plateau ici, aux alentours de 2,3 volts. C'est voilà les performances du système. Et c'est des systèmes qui ont été, du moins à l'époque, conçus pour des applications de la mobilité, comme on voit ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ces deux technologies, que sont la technologie sodium-soufre et la technologie de conversion initiale de sodium. Alors pour les comparer, eh bien, je vais tout simplement les comparer dans ce tableau ici, dans lequel vous avez la technologie sodium-soufre, qui est ici tout simplement à gauche et zébra à droite. En termes de performance, je dirais qu'il n'y a pas grande différence, elles opèrent toutes à des températures de 270 à 350 degrés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, en termes d'efficacité énergétique, eh bien, vous dépensez 15% de l'énergie que vous fabriquez pour chauffer le système. Ensuite, en termes d'avantages, eh bien, la technologie sodium-soufre présente un avantage au niveau puissance par rapport à celle zébra, qui, elle, a un meilleur avantage au niveau densité en raison de ce potentiel. Et enfin, au niveau des applications, eh bien, l'une est plus vouée à des applications de ce que je dirais de réseau, ainsi de suite, par rapport à la technologie zébra, qui est plutôt vers la mobilité électrique. Mais là aussi, ces systèmes aujourd'hui ne sont pas quand même les plus performants ou compétitifs sur ce qu'on a. Et enfin, je dirais, les inconvénients, eh bien, c'est quand même l'aspect sécuritaire qui est associé, une fois de plus, à cet séparateur qui est l'alumine, qui peut, avec des conditions d'utilisation, se fracturer, ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, comme vous pouvez voir ici, eh bien, il y avait un besoin réel de voir si on pouvait porter cette chimie qui est à 300 degrés, essayer de faire de la même chimie à température ambiante. Et c'est là que va arriver le sodium-ion. Alors le sodium-ion, eh bien, pourquoi les batteries sodium-ion? Mais là, je vais peut-être être un peu répétitif, si je peux dire, par rapport à un ou deux transparents. Pour la bonne et simple raison, eh bien, c'est que là aussi, à partir directement de la matière première, dans laquelle, eh bien, dans le cas du sodium, eh bien, je dirais, l'abondance était limitée et le coût est attractif par rapport au lithium. Il y a également l'aspect abondance. Et vous voyez que dans le cas du lithium, puis on est réglementé par le triangle, je dirais, des producteurs de lithium que sont finalement l'Argentine, la Bolivie, le Chili. Ensuite, au niveau, je dirais, des méthodes d'extraction, eh bien, dans le cas du lithium, les sources de lithium sont, je dirais, de deux sortes. Soit vous avez des salars, des saumures, dans lesquels le procédé va consister tout simplement à évaporer l'eau et ensuite avoir des systèmes de purification et de précipitation. Mais tous ces systèmes, je dirais, ne sont pas tellement vertueux vis-à-vis de l'environnement au niveau de la quantité d'eau qui est nécessaire pour faire, je dirais, de telles extractions. Ensuite, il y a, dans ce cas, à partir des minerais, dans le cas du spodumène, ou, dans ce cas, effectivement, dans des concentrations par poids qui sont supérieures dans le cas des saumures. Mais là aussi, bien sûr, il faut avoir des procédés qui vont utiliser pas mal de température, et surtout, il faut faire de l'extraction qui va directement causer beaucoup de problèmes environnementaux, c'est-à-dire trouver un site d'extraction et avoir, finalement, l'accord de tout le voisinage pour pouvoir exploiter, ce qui risque de prendre des dizaines d'années. Quant au cas du sodium, eh bien, le procédé, je dirais, est relativement plus simple. On va prendre de l'eau de mer ou l'eau de lac. Ensuite, il va y avoir bien sûr le système d'évaporation pour avoir du chlorure au sodium. Et dès qu'on a du chlorure au sodium, il y en a des réactions, je dirais, qui sont relativement faibles. C'est le procédé solvé, dans lequel on va tout simplement réagir ce chlorure au sodium avec du CO2 sous un fluide d'ammoniac pour former, après plusieurs étapes, eh bien, du sodium carbonate, comme on peut voir ici. Donc voilà, si vous voulez, l'intérêt d'avoir du sodium et l'abondance du sodium, et qui est responsable pour le coût nettement moindre du carbonate de sodium par rapport au carbonate de lithium. Ensuite, en termes d'autres avantages, eh bien, je dirais du sodium-ion par rapport à lithium-ion, et ça va venir au niveau des collecteurs de courant. Les collecteurs de courant, dans le cas du sodium-ion, eh bien, on va pouvoir tout simplement utiliser de l'aluminium, car dans ce cas, il n'y a pas d'alliage entre le sodium et l'aluminium, alors que cela, directement, n'est pas possible dans le cas du lithium, puisque vous allez avoir l'alliage lithium-X-aluminium. Et enfin, Et comme on en parlera pour la fin de ce cours, le sodium ion, il va y avoir sa version liquide, mais on parlera à la fin de ce cours de la version solide. Et là aussi, au niveau de la version solide, il y a certains avantages des électrolytes solides, notamment avec les phases que je vais mentionner ici, les phases de sodium, zirconium, silicone phosphate, qui sont des phases qui vont avoir des conductivités intéressantes, mais des matériaux qui sont plus malléables, avec des interfaces qui sont, je dirais, moins réactives par rapport au cas du lithium, et ainsi de suite. Vous savez les raisons pour lesquelles, si vous voulez, eh bien, on va, dans ce cas, eh bien, s'intéresser à ce développement long terme de la technologie sodium-ion, qui présente des avantages mais géostratégiques, des avantages géoéconomiques, mais également des avantages au niveau de la sécurité énergétique et de la souveraineté. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi cette technologie sodium-ion va être intéressante, et on va regarder ça. D'où, eh bien, effectivement, on va passer, dans ce cas, des différents systèmes, c'est-à-dire des métaux alcalins, et bien on va maintenant passer au sodium. Et comme vous pouvez voir, la description ou la schématique ou la schématique du système électrochimique sodium-ion est exactement le cas du lithium-ion. Comme je vous l'ai dit, c'est le clone du lithium-ion. C'est bien le clone, si bien que si maintenant je regarde les matériaux d'électrodes, qu'on va passer en revue plus tard, autant d'électrodes positives, négatives, et bien vous allez retrouver ces différents types de matériaux, vous allez retrouver plus ou moins les mêmes familles de matériaux qu'on avait trouvés dans le cas eh bien, des batteries à ion lithium. C'est-à-dire, on va voir les composés lamellaires, on va avoir les composés polyanioniques, on va voir les bleus de Prusse, par contre, qui seront plus, qui n'étaient pas dans le cas du lithium-ion. À la négative, on va voir les intermétalliques, on va voir le carbone. Et eh bien, là aussi, au niveau des électrolytes, il ne va pas y avoir miracle, il va y avoir des solvants organiques, avec bien sûr un sel de sodium plutôt qu'un sel de lithium. D'où je dirais, ça c'est une chance, je dirais c'est une bénédiction, mais aussi un piège. C'est un piège parce qu'au départ, on croyait naïvement qu'on pouvait, à l'aveuglette, transposer tout ce qu'on savait sur le lithium au sodium. Et hélas, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué, notamment au niveau des électrolytes, où il a fallu changer finalement la plupart des ingrédients pour avoir des meilleures performances, et on verra ça plus tard. Alors aujourd'hui, eh bien, ces technologies ion lithium sont développés. Vous avez ici les 3 ou 4 systèmes que l'on va passer en revue dans ce cours. Vous avez des systèmes qui sont basés sur les composés lamellaires. Et là aussi, c'est le clone du lithium-ion lamellaire qu'on a. Vous avez des systèmes qui vont être sur les polyanioniques. Je dirais, c'est le système qui se rapproche du lithium FePO4, avec la différence c'est que malheureusement ici, on a du vanadium plutôt que du fer, qui n'est pas top. Ensuite, il va y avoir alors, les bleus de Prusse. Les bleus de Prusse, qui sont des composés dans lesquels, dans ce cas, vont reposer sur des métaux 3D avec des groupements cyano. Et ensuite, il va y avoir ces technologies qui vont être soit à milieu non aqueux ou à milieu aqueux. Et chaque chimie eh bien, va avoir ses propres avantages et ses propres inconvénients qu'on va pouvoir directement voir dans ce cours. Alors, quelles sont de nouveau les performances de ces différentes chimies? Eh bien, je vais les mentionner ici. Vous avez les composés lamellaires, les prussian blue et les polyanioniques. Vous avez ici directement les différents systèmes ou les différentes compagnies qui développent cela. Et voilà à peu près les différentes densités d'énergie qu'affichent ces différentes compagnies avec les mentionnées ici. Et vous voyez qu'en ce cas, vous avez les polyanioniques qui sont autour de 120 ou 125 watts par kilo. Vous avez les prussian blue qui arrivent aux alentours de 150, je dirais, à égalité avec les lamellaires, mais là aussi, c'est des chiffres qu'on va revoir et qui ne s'avèrent pas quand même totalement véridiques au niveau des performances réelles. D'où les acteurs qu'on va voir et qu'on verra à la fin du cours, par contre, eh bien, j'ai essayé de les résumer ici. Voilà directement l'état de la situation dans ce domaine. Vous avez ici, finalement, la capacité sur l'axe des X, avec le nombre de cycles, l'axe des Y, sur lequel vous avez les différentes compagnies, avec les points en rouge qui représentent les composés lamellaires, les points en vert qui sont les composés polyanioniques, et en jaune qui sont les bleus de Prusse. Et vous voyez que là, eh bien, on retrouve la plupart des compagnies, qu'on va voir comme CATL, ainsi de suite, qui sont dans ces différents secteurs, et dont on verra l'intérêt pourquoi. Et là, vous avez aussi la technologie de natron, qui est une technologie aqueuse, raison pour laquelle vous avez très peu, je dirais, de densité d'énergie, mais par contre, vous avez beaucoup, je dirais, de tenue en cyclage. Et enfin, pour terminer, eh bien, quel est le marché, ou comment on voit le marché de ces technologies? Eh bien, voilà, des, je dirais, c'est des études qui ont été publiées par Avicenne, dans lequel eh bien, on prévoit que dans les années, je dirais 2030, eh bien, le sodium-ion prendra part à 8% du marché sur les batteries. Dans les secteurs qui sont indiqués ici, vous voyez que dans ce cas, le stockage de masse, comme mentionné, eh bien, est certainement le secteur qui sera le plus prisé pour ces batteries sodium-ion, suivi par, dans le cas du véhicule électrique, alors quand je dis le véhicule électrique, ce ne sera pas le véhicule électrique pur, ce sera certainement des véhicules hybrides, car on va utiliser tout simplement la puissance de ces accumulateurs qu'on verra par la suite pour ces systèmes. Et enfin, dans le cas des deux roues ou trois roues, à la hauteur de 28 gigawatt-heure. Donc, si vous voulez, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui pour cette introduction sur le contexte des batteries, le lithium-ion vis-à-vis du sodium-ion et qu'est-ce qu'il y a dans le sodium-ion. Et là, je crois qu'on a tous les éléments maintenant pour la prochaine fois commencer sérieux sur les matériaux d'électrodes et voir leur pour, leur contre, ainsi de suite. Voilà, merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.